Et bon réveil, si vous nous rejoignez, nous sommes le mercredi 21 septembre 2016. Il est donc 7h et c'est le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La Syrie replonge dans le conflit qui l'ensanglante depuis 5 ans. Les États-Unis et la Russie s'accusent d'avoir fait voler en éclats la courte et fragile trêve des combats. Les Nations Unies assistent à tout cela dans l'impuissance la plus totale.
La guerre en Syrie qui a fait plus de 300 000 morts et 4 millions de réfugiés. Certains se retrouvent dans la jungle de Calais, un afflux migratoire qui inquiète des habitants et des professionnels des transports notamment. Nicolas Sarkozy leur rend visite aujourd'hui.
Nicolas Sarkozy, l'un des 8 candidats à la primaire de la droite. Les noms de tous les candidats seront confirmés à midi aujourd'hui et des électeurs venus d'autres bords politiques pourraient bien départager les favoris. 7h13, le billet économique, Guillaume.
Marie Viennot jouera à être Janet Yellen, la présidente de la réserve fédérale américaine. La question du jour, les discriminations coûtent 150 milliards d'euros à la France. On vous expliquera pourquoi. Et le sujet du jour, l'irrationalité du capitalisme, en compagnie du prix Nobel d'économie 2013, Robert Schiller.
La grand-messe de l'Assemblée générale des Nations Unies tourne à l'aveu d'impuissance. Depuis New York, la communauté internationale assiste à la reprise des combats en Syrie. Au nord du pays, 27 barils explosifs, l'arme de prédilection du régime de Damas, ont été largués sur Alep hier, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au moins 39 civils tués dans la province depuis lundi. Et hier soir, le ton est encore monté d'un cran entre les États-Unis et la Russie, les deux puissances qui avaient péniblement imposé un cessez-le-feu il y a plus d'une semaine. Washington tient le gouvernement russe pour responsable du bombardement d'un convoi humanitaire lundi près d'Alep. 20 morts dans cette attaque. Moscou responsable selon un responsable américain car deux bombardiers russes étaient sur la zone en même temps. Allégation sans fondement faite par des protecteurs de terroristes, rétorque la diplomatie russe. Les soutiens de Damas mis devant leur responsabilité hier par François Hollande à l'Assemblée générale de l'ONU. Correspondance à New York de Bertrand Galichet.
La tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté internationale si nous n'y mettons pas fin rapidement, a dit hier François Hollande devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Une mise en garde qui intervient alors que l'opposition syrienne dénonce l'absence de crédibilité des efforts diplomatiques pour instaurer une trêve. Le président français accuse Damas d'être à l'origine de la reprise des combats.
Le cessez-le-feu n'aura tenu que quelques jours. Il aura volé en éclats dès le lendemain de son annonce, sans qu'on en connaisse d'ailleurs le contenu. Le régime est responsable de son échec. Et je dis à ses soutiens étrangers que chacun connaît ici, qu'ils doivent forcer la paix. Sinon, ils porteront avec le régime la responsabilité de la partition et du chaos.
Des appuis étrangers que François Hollande a ensuite désignés devant la presse française en citant la Russie. Hier soir, Moscou a démenti toute implication dans la destruction d'un convoi de camions humanitaires la veille près d'Alep, un sujet abordé lors d'une rencontre entre le secrétaire d'État John Kerry et son homologue Sergueï Lavrov. Mais le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, estime ici que les négociations entre Américains et Russes sur la Syrie ont atteint leurs limites.
Bertrand Galichet, envoyé spécial de France Culture à New York. Et toujours aux États-Unis, une cinquantaine de pays ont fait la promesse d'accueillir quelque 360 000 réfugiés cette année. Deux fois plus que le nombre de places accordées par rapport à 2015 lors d'un sommet organisé par Barack Obama. Mais ce chiffre ne couvre qu'une fraction des besoins d'accueil, a regretté le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR estime par ailleurs à plus de 300 000 le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont traversé la Méditerranée pour se rendre en Europe depuis le début de l'année. C'est moins que les 500 000 arrivées enregistrées sur les 9 premiers mois de l'année en 2015, mais c'est plus que le total de l'année 2014. 2016 risque également d'être l'année la plus meurtrière si le nombre de morts noyés se maintient au rythme actuel. Plus de 3200 personnes sont mortes ou portées disparues. Des réfugiés et des migrants qui fuient la guerre et la misère dans leur pays, ils se retrouvent coincés pour certains dans la jungle de Calais en espérant passer en Angleterre. Près de 7000 personnes vivent ou survivent dans la jungle selon les autorités. Plutôt 10 000 selon des associations. Et c'est à Calais, dans la ville, plutôt que dans la jungle, que Nicolas Sarkozy doit se rendre aujourd'hui. Le candidat à la primaire de la droite veut rencontrer les transporteurs routiers, les marins et les ouvriers du port. Il participera ensuite à une table ronde sur les difficultés des Calaisiens face à l'afflux de migrants. Lundi prochain, ce sera au tour de François Hollande de se rendre sur place. Calais, un passage obligé pour les futurs candidats à la présidentielle, au grand dam des associations d'aide aux réfugiés qui attendent toujours des réponses concrètes. Yann Gallic.
Ce défilé de personnalités politiques commence à agacer sérieusement les associations qui travaillent dans la jungle de Calais, vaste campement où s'entassent désormais près de 10 000 réfugiés. Maya Conforti est l'une des responsables de l'auberge des migrants. Elle regrette, dit-elle, les polémiques stériles qui entourent le démantèlement programmé de la jungle.
Ça ne nous dérangerait pas si il se passait vraiment quelque chose et si c'était pas un jeu politique simplement qui a à voir avec les élections. C'est ça toujours le problème, quoi. Justement, pour ces présidentielles, on n'entend plus parler que de ça. Campagne identitaire, on veut pas de ces migrants. Beaucoup de maires de villes de France se positionnent contre. Il n'y a jamais vraiment une solution qui est cherchée. Simplement, on utilise ça à des fins politiques. C'est pas le démantèlement qu'il faut, c'est vraiment réfléchir à la situation en amont de Calais et en aval.
Les associations ont été reçues hier au ministère du Logement. Elles réclament des conditions d'accueil dignes pour tous les migrants de Calais et surtout la possibilité pour eux de faire une demande d'asile en France. Mais l'État doit encore trouver 9 000 places d'hébergement supplémentaires dans des centres d'accueil et d'orientation sur tout le territoire avant de lancer le démantèlement de la jungle.
La question migratoire et ses conséquences sur les habitants de Calais, au cœur donc d'un déplacement de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, l'un des 8 candidats a priori de la primaire à droite. C'est aujourd'hui que la haute autorité de la primaire doit valider les candidatures officiellement déposées il y a 2 semaines par Nicolas Sarkozy donc, mais aussi par Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé, Hervé Mariton et Jean-Frédéric Poisson, au nom du Parti chrétien-démocrate. Ces candidats font l'objet de nombreuses enquêtes d'opinion depuis des semaines, et des enquêtes qui montrent de façon constante qu'il y a 2 favoris, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, tous 2 au coude à coude. Et selon Jérôme Fourquet de l'Institut de sondage IFOP, ce qui devrait donner la victoire à l'un ou à l'autre de ces 2 candidats, c'est le taux de participation des électeurs que l'on appelle halogènes, c'est-à-dire qui ne sont pas de droite, mais de gauche, du centre ou encore de l'extrême droite. Jérôme Fourquet.
Une des interrogations majeures qu'on a aujourd'hui, c'est le fait que l'on trouve une proportion non négligeable d'électeurs de gauche qui nous disent avoir la ferme intention d'aller voter à la primaire. On en a 14% aujourd'hui, ce qui est beaucoup. Donc il y a une vraie interrogation et on est sur quelque chose de tout à fait atypique et de tout à fait inédit. On avance à juste titre dans l'entourage de Nicolas Sarkozy qu'aux États-Unis, grand pays de primaire, ce sont les électeurs du camp qui organise la primaire, qui se déplace. On vote en famille. La difficulté, c'est que nous, aujourd'hui, IFOP, mais aussi d'autres instituts, mesurent une proportion non négligeable d'électeurs venant de la gauche ou du centre. Pour l'expliquer, une idée qui s'installe jour après jour, idée selon laquelle on aura manifestement Marine Le Pen au deuxième tour, et une disqualification, une élimination de la gauche dès le premier tour, et que le deuxième tour pourrait prendre la forme d'un affrontement FN contre droite, comme en 2002. Et donc, pour nos électeurs de gauche qui pourraient tenter de s'inviter à la primaire, ils le feraient en disant « En 2002, nous avons été contraints d'aller voter pour Jacques Chirac pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. C'est hors de question qu'en 2017, nous allions voter en rang serré pour Nicolas Sarkozy pour barrer la route à Marine Le Pen. »
Jérôme Fourquet de l'Institut de sondage IFOP, il répondait à Stéphane Robert. Après un premier adolescent interpellé lundi, 2 autres mineurs âgés de 17 et 14 ans ont été arrêtés hier dans le cadre de l'enquête sur la fausse alerte à l'attentat. Fausse alerte qui avait entraîné samedi une vaste opération de police dans le centre de Paris. Le premier adolescent de 16 ans, interpellé lundi dans la Marne, a reconnu lors de sa garde à vue être l'un des auteurs de ce mauvais canular. Les suites de l'enquête sur l'attentat de Nice, 8 personnes ont été interpellées hier dans l'entourage de Mohamed Lawayesh Boulel, ce Tunisien qui avait foncé sur la foule sur la promenade des Anglais et qui avait tué 86 personnes.
7h08 sur France Culture, la suite du journal Catherine Dutu, l'enquête sur les attentats de New York et du New Jersey. À présent, la piste de la radicalisation se confirme.
Ahmad Rahami, cet Américain de 28 ans, d'origine afghane, aurait voyagé en Afghanistan et au Pakistan. Son père avait alerté le FBI en 2014. On y revient dans le journal de 7h30. En République démocratique du Congo, 2e journée consécutive de violence dans la capitale, Kinshasa. Impossible de connaître précisément le nombre de morts dans les affrontements hier entre des jeunes de quartier populaire et les forces de l'ordre. L'opposition au président Joseph Kabila réclame son départ et la tenue d'une élection présidentielle avant la fin de l'année. Entre 17 et 50 morts lundi. Hier, plusieurs sièges de partis politiques ont été incendiés et notamment celui de l'UDPS Guterres, la principale force de l'opposition. Plusieurs corps calcinés retrouvés à l'intérieur. Le reportage à Kinshasa de Sonia Rollet pour RFI et France Culture.
Ça, ce sont des gardes de la permanence.
Des gardiens saisis par le feu, cadavres calcinés au milieu des décombres. Le siège de l'UDPS a été entièrement brûlé.
Il y a le corps ici. Il y a l'autre corps là-bas.
Et comment vous expliquez ça?
Bon, comment tu peux expliquer? C'est le gouvernement.
Des bacs d'eau pour tenter d'éteindre les braises qui continuent de fumer. La mission des Nations Unies est sur place. Équipe médicale, police onusienne, bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Il y a encore des tirs autour de la permanence, ce qui rend difficile l'accès aux équipes médicales. Mais l'UDPS dénonce le fait que depuis l'attaque au milieu de la nuit, la police leur ait interdit l'accès au siège malgré la présence de blessés.
Comme ça, mon Dieu.
Ici, un blessé par arme blanche est soigné. De grands brûlés attendent toujours d'être évacués quand un troisième est découvert.
Il y a une grille un peu.
C'est bon, hein.
Il est vivant.
De trop longues heures d'attente avant d'être évacué.
Sonia Rollet à Kinshasa pour RFI et France Culture. Une note d'espoir pour finir ce journal avec le lancement hier du mouvement pour la fraternité générale. Un mouvement citoyen qui se veut apolitique et concret. L'objectif, mettre en valeur et en relation tous ceux qui se mobilisent, souvent dans l'ombre, pour plus de fraternité, plus de lien social. Abdennour Bidar est philosophe, défenseur de la fraternité. Il est l'un des initiateurs de ce mouvement.
Bah c'est ça le cynisme, c'est de penser que ça fait bisounours. À un moment donné, il va peut-être falloir passer à autre chose que l'incrédulité et le désenchantement généralisé. Nous, Français, nous qui sommes un grand peuple politique, nous avons la responsabilité de nous poser la question de la société dont nous voulons. Autour de quoi bâtir un projet de société? Autour des programmes politiques? On a l'impression que plus il y a de programmes politiques, moins il y a de vision et moins il y a de propositions. Eh bien, ce qui ne vient plus du côté du politique, à mon avis, est en train d'émerger du côté des citoyens. Donc, pour moi, le cynisme, c'est la solution de facilité, parce que faire vivre la fraternité, c'est commencer dans son quartier, dans son métier, avec les gens qui sont autour de nous, par se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller au-delà de l'indifférence, au-delà de l'égoïsme, au-delà de l'individualisme et au-delà de ce qui est en train de nous gangréner et de nous faire énormément de mal, tous les rejets de l'autre et tous les replis sur soi.
Le philosophe Abdennour Bidar, interrogé par Cécile de Kervas-Doué. Le temps de ce mercredi, mitigé avec une alternance de nuages et d'éclaircies sur tout le pays. Des averses orageuses des Alpes jusqu'à la Corse. Les températures maximales seront comprises entre 18 et 23 degrés sur la moitié nord du pays. 20 à 27 dans le sud, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Dans quelques instants, Marie Viennot se prendra pour un personnage important, Janet Yellen, la présidente de la réserve fédérale américaine. Et nous évoquerons dans la question du jour le coût des discriminations en France. Bah oui, les discriminations ont un coût.